France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit quelqu'un qui a un truc rare. Il a réussi à faire de la musique un lieu de rendez-vous, un endroit où les artistes viennent pour jouer, pas seulement pour parler. Un passeur, un rassembleur, un guitariste qui a passé sa vie à fabriquer des ponts entre les styles et les générations. Wax est avec nous. Il vient de sortir Étincelle 2, la suite d'un projet né d'une idée toute simple et pourtant universelle. C'est quoi le morceau qui a déclenché ta passion quand tu étais enfant? Celui qui t'a donné envie de chanter, d'écrire, de monter un groupe, de tout miser sur la musique. Et donc sur ce nouvel album, il réunit des voix et des mondes très différents, de la chanson française à la pop, au rap, au classique revisité, et il réussit quelque chose, faire de ses reprises des portraits intimes. Et comme ça ne suffit pas, il sort aussi Shuffle, un livre illustré pensé comme une playlist en aléatoire, plus de 40 histoires de musique, ce qu'on ne sait pas derrière les tubes et les légendes. Vous le connaissez aussi pour Fanzine sur YouTube, pour Foudre sur RTL2, et ce soir on va parler de tout ça, le musicien, le producteur, le créateur de contenu, et même le fan de basket. Wax est avec nous jusque 23h.
France Inter. Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, Wax?
Écoute, moi, à chaque fois que je suis avec toi, je suis tellement bien dans mes pompes. Quelle belle présentation.
Eh bien, moi, c'est ça mon but dans la vie, c'est que les gens soient bien dans leurs pompes. En venant chez moi, tu vois.
Eh bien, écoute, c'est le cas.
Bon, bah, trop bien. Je suis vraiment content de te recevoir. Effectivement, on se connaît un petit peu. On a fait quelques émissions ensemble dans notre vie.
Oui, c'est vrai. On a même failli en faire une ensemble.
C'est vrai.
Qui verra peut-être le jour un jour.
Peut-être. En tout cas, le concept est toujours là. Mais finalement, c'est un peu fanzine, quelque part.
Quelque part, un petit peu, oui.
Mais on en reparlera après, qui est ta dernière émission en date, en tout cas sur YouTube, et qui cartonne, qui est une vraie émission musicale. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle quand même de ton actualité chaude. C'est la sortie d'un nouvel album, Étincelle, qui est donc le volume 2. Pourquoi t'as voulu enchaîner presque assez rapidement, un an après le premier volume, avec ce nouveau projet de reprise et de rencontre avec autant d'artistes différents?
Je t'avoue que, en fait, tout est parti à la base d'une interview que j'avais faite où on m'avait dit « Tu fais beaucoup de reprises, mais t'as jamais voulu en faire un album ?» Et je m'étais dit que faire un album de reprise, juste de reprise, ça m'intéressait pas franchement. Mais à partir du moment où j'ai eu cette idée de me dire que je voulais faire des morceaux et créer ce moment spécial en studio avec des artistes, de morceaux qui leur ont fait aimer la musique, on a tous, un petit peu comme Macaulay Culkin dans « Maman, j'ai raté l'avion », pris le peigne et chanté devant la glace quand on était petit, et ben, on a eu tous ce moment. Quelle est la chanson avec laquelle toi t'étais avec ton peigne devant dans ta salle de bain? Et du coup, ça a créé des moments tellement puissants en studio que c'est devenu un peu addictif pour moi.
Ouais.
Et vraiment, je me suis dit, il y a tellement d'artistes, j'aimerais savoir c'est quoi ce morceau-là, et j'aimerais vivre ce moment en studio avec eux. Du coup, j'ai prolongé le plaisir, effectivement, en faisant un volume 2.
C'est quoi, toi, justement, le morceau que tu chantais avec un peigne quand t'étais petit?
Je pense que c'était Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
Ouais.
En fait, j'étais un peu dans ma période Nirvana, et puis j'étais vraiment dans ma période MC Solar. Donc, c'est un mélange entre nouveau western et Smells Like Teen Spirit de Nirvana, je pense.
MC Solar, d'ailleurs, avec qui t'as pu collaborer. On écoutera, d'ailleurs, une reprise de Renaud que
oui.
vous avez fait ensemble un peu après. Mais je crois que ce projet, il démarre quelque part avec une reprise que tu as faite avec Pomme, une reprise de Laissez-moi danser.
Laissez-moi danser. Laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi.
Donc c'est différent, vraiment justement, du classique que tout le monde connaît. Et Pomme, vous avez aussi une histoire particulière, parce que moi, je vais être honnête, je crois que je l'avais découvert à l'époque sur tes vidéos, notamment dans le comité des... peut-être autre chose.
Non, on faisait des vidéos ensemble.
Des vidéos ensemble,
c'est
exactement.
Hybride totalement.
Ouais, tout à fait. Et je crois que ça a vraiment été pour moi mon premier lien, en tout cas, avec Pomme en tant qu'artiste. Aujourd'hui, bah, elle a sa carrière,
ah oui.
Elle est remplie de succès. Quel lien vous avez tous les deux, parce que ça fait longtemps que ça dure en fait entre vous.
Ouais, en fait, tu sais, j'avais une amie qui s'appelait Nina Verrier, qui travaillait
qui
chez Polydor.
Presse à l'époque. Exactement. Chez Polydor, tout à fait.
Et qui m'avait dit, écoute, on a signé une jeune artiste, enfin, où on va la signer, vraiment, c'était les tout débuts, je pense que tu l'adorerais. Et donc, du coup, elle a créé la rencontre avec Claire, plus connue sous le nom, ouais, de Pomme, et ça a été le coup de foudre vraiment. On a commencé par faire de la musique ensemble, faire ces vidéos-là ensemble. Et puis derrière, elle m'a demandé de produire et réaliser son premier disque, qui a été son premier succès, en
fait. Ouais, tout à fait.
Et puis, j'avais plein de choses à faire, elle aussi. Donc, du coup, après, on se voyait plus pour faire de la musique, mais juste pour se voir, comme si, moi, tu sais, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur, j'ai un petit frère que j'aime plus que tout, mais elle a pris ce rôle-là dans ma vie, et depuis, on se lâche plus, on est tout le temps ensemble.
Tu préfères Pomme ou ton petit frère ?
Alors là, vraiment, c'est très dur comme question.
Mais dis ton petit frère quand même, enfin.
On va passer à une autre question. Mon petit frère, évidemment, c'est mon sang, mais Claire, c'est autre chose. C'est une famille recomposée presque plus tard.
Et alors, mine de rien, c'est vrai que toi, on parle de ces reprises, qui encore une fois, hein, c'est pas uniquement de la reprise, on est plus dans la revisite aussi de morceaux, mais toi, tu fais aussi de la musique de ton côté depuis longtemps, enfin, on va dire de la composition originale. Est-ce qu'à un moment, quand on est un créatif, un artiste, il n'y a pas aussi la crainte, tout simplement, qu'on soit un peu cantonné parfois à ce « Ah, on va aller voir Wax pour reprendre quelque chose, pour faire une reprise ». Est-ce que toi aussi, t'as aussi, j'imagine, une envie, un ego aussi même, tu sais, d'artiste, de sortir tes choses, tes compositions. Est-ce que parfois tu peux être, il peut y avoir une frustration,
oui, je sais pas ce que tu veux dire,
due à ce succès-là en fait.
Bien sûr. Eh ben écoute, non, j'en ai pas du tout, ouais, parce que j'ai toujours estimé que la reprise c'était vraiment de la création. Tu sais, quand j'étais petit, j'écoutais Jimi Hendrix qui reprenait All Along the Watchtower. J'avais aucune idée que c'était une composition de, ouais, Bob Dylan. Et quand j'ai écouté le morceau de Bob Dylan, pour moi c'était deux morceaux diamétralement opposés. Il y a une vraie création quand on fait de la reprise. Il y a un vrai travail de recomposition, ce qui est presque plus dur finalement que de faire de la composition. J'ai plus de facilité à composer qu'à reprendre finalement. Et en fait, j'ai la chance, même si c'est beaucoup plus confidentiel, de composer pour des artistes.
Donc tu, oui, vois, oui, dernièrement, après, oui, tout à fait.
Et donc du coup, j'ai toujours les deux. Après, c'est vrai que si on vient me voir et qu'on me dit toi, t'es un mec qui fait que des reprises, bon, écoute, c'est que tu m'as connu via, oui, ce biais-là, il n'y a pas de souci, franchement, en vrai. Concernant ça spécifiquement, j'ai pas d'ego. Je suis très content si on me connaît via les reprises parce que
tu l'assumes, c'est quelque chose que t'aimes.
Ah ouais,
faire.
J'adore, ouais, faire ça. Et, ouais, puis surtout, tu sais, c'est même pas que moi, c'est les artistes avec qui je le fais qui apportent tellement à c'est une co-création à chaque, mmh, fois. Et c'est ça le plus important.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, je trouve, sur la partie. Parfois, on découvre des morceaux, on ne sait pas que ce sont des reprises. Ouais. Moi, j'ai un peu ça avec, quand j'étais petit en tout cas, avec Your Song, donc classique d'Elton John, mais la reprise de Billy Paul. Moi, j'ai découvert cette chanson via Billy Paul.
Mais oui.
Ma mère qui était fan de Billy Paul. Et c'est une version radicalement différente de celle d'Elton John. Donc, effectivement, c'est les mêmes chansons, ce sont les mêmes paroles, c'est les mêmes accords, mais ce sont deux chansons qui n'ont pas grand-chose à voir.
Mais non, c'est clair. Et puis, les Guns N' Roses aussi avaient repris Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan pendant des années. Moi, je pensais que c'était une chanson de, ouais, deux, ouais, tu vois. Et il y a plein de chansons comme ça dans l'histoire de la musique où, finalement, on apprend beaucoup plus tard. Tu vois, moi, c'est un titre, notamment, et je me rappelle, j'avais eu un peu honte, mais c'était une interview que j'avais fait. J'avais dit, moi, j'adore With a Little Help from My Friend de Joe Cocker parce que c'est iconique. Et au bout d'un moment, l'intervieweur m'a dit que c'est une chanson des Beatles à la base. Mais elle est beaucoup moins connue. C'est comme, ouais, The Man, ouais, Who Sold the World.
Exactement.
Qui est une chanson de Bowie. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était Kurt Cobain qui l'avait écrit.
Ouais, ouais.
Mais voilà, c'est peu importe en fait. Peu importe le chemin qu'on utilise tant qu'on écoute de la bonne musique et que ça nous fait découvrir,
ouais,
des,
absolument,
choses.
Absolument. Mais c'est intéressant que tu dises, toi qui as une culture musicale, qui vient de sortir aussi un livre sur la musique, de ne pas non plus trop, comment dire, intellectualiser ça en fait. C'est d'abord de la musique en fait, avant c'est de ça. Vouloir étaler. Justement, ce livre-là, Shuffle, pourquoi t'en fais un livre? Tu pourrais faire une série de vidéos YouTube à succès. YouTube, c'est une plateforme que tu connais bien. Pourquoi t'as voulu raconter ces histoires-là sur un livre?
Mais je pense qu'en fait, il y a une idée un peu politique derrière ce que je fais à chaque fois. Tu vois, que ça soit dans Fanzine, que ça soit dans mes émissions, ou que ça soit ce livre-là ou les albums. Ce que je veux, je milite pour que la musique soit partout et soit le plus écouté possible, peu importe le moyen. Je sais qu'en écrivant un livre, ce qui est bien, c'est que ça reste et que le public que je vais toucher va... Tu sais, il y a quand même une différence entre le print de quand moi j'achète un livre et que je le lis, je sais que derrière, je vais vouloir spread the love, tu vois, je vais en parler vraiment à fond parce que j'aurai passé du temps dessus. Quand je consomme quelque chose qui prend très peu de temps, j'en parle peu. Voilà, tu vois, c'est un peu comme ça. Et je m'étais dit que c'était bien de raconter ces histoires-là qui n'est qu'un prétexte pour que les gens écoutent de la musique, finalement.
Exactement, exactement. On va en parler juste après, mais avant, on va nous-mêmes écouter de la musique. Et je te propose qu'on écoute un morceau qui doit quand même ressembler un peu à un accomplissement pour toi. Collaborer avec MC Solar.
Ah oui, ça c'était... Oui. C'est, en fait, ce qui est fou, c'est que l'album s'appelle Étincelles, parce que c'est leurs étincelles, mais j'ai fait mon étincelle... Enfin, il a fait son étincelle... Et c'est mon étincelle, MC Solar. Donc c'est fou.
Ouais.
Enfin, la boucle, elle était incroyablement bouclée pour moi.
La boucle est bouclée. On va donc s'écouter cette reprise de Renaud, Mistral gagnant, Wax et MC Solar. Ton album préféré d'MC Solar, Wax, comme ça ?
Oh, franchement, c'est très dur. C'est très dur.
Pour ce combat.
Allez, pour ce combat.
Allez, pour ce combat. Pour ce combat.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'ai des minots, des bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À remarcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler. Bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Avec toi et regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge ce n'est que les tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Wax donc notre invité avec MC Solar pour cette reprise du classique Mistral gagnant.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors on va bien sûr continuer à parler d'Étincelle 2, de toi, ton actualité, mais dans l'actualité, il y a donc ce livre, Shuffle, et donc c'est plein d'histoires autour de la musique, et de choses que moi, j'ai appris, notamment cette histoire de projet commun entre Freddie Mercury et Michael Jackson.
C'est dingue. Hein.
Est-ce que tu peux nous raconter ça ?
Ouais, écoute...
Et comment tu tombes sur ces histoires-là aussi ?
Ah oui, ça c'est intéressant
ouais.
Aussi. Tu sais, moi en fait, je pense que j'apprends vraiment à lire, tu vois, quand je suis petit, en lisant deux choses, c'est Dragon Ball d'un côté,
ouais.
Il sortait tous les mois avant, c'était un petit mensuel, c'était
un petit
fascicule, tu vois, et j'ai commencé par lire des livres sur la musique, parce que ça m'intéressait énormément, j'avais des biographies non autorisées à l'époque, ça s'appelait comme ça,
ouais,
tu
oui.
vois, sur des groupes, j'avais un truc sur les Red Hot Chili Peppers.
C'est-à-dire pas... que dès le plus jeune âge, toi, enfin en tout cas vers 6-7 ans, t'es déjà dans la musique.
Ouais,
ça t'intéresse déjà.
Oui, mais parce que pour moi, c'est des super-héros, okay. Tu vois, Je me rappelle, j'avais un livre non autorisé d'ACDC et je lisais. Et donc,
comme une BD, quoi.
Oui,
comme
en fait, c'est comme ça. Comme un comics. Ouais. Exactement. Et donc, ça raconte qu'ils vont aux Bahamas pour enregistrer le Black Album, tout ça. Enfin, tu vois, toutes ces histoires-là me fascinaient. Et en fait, j'ai passé ma vie à lire que, finalement, en fait, c'est devenu addictif.
Oui.
Ma vie est accompagnée donc de basket, de musique, mais en lecture d'autobiographies d'artistes, ouais, et de biographies non autorisées, oui, évidemment. Oui, oui. Et donc, de tout ça, y a plein d'histoires que j'ai en tête dans la musique. Et quand je me mets à vouloir écrire ce livre, je me dis, mais il y avait cette histoire d'un album commun qui devait avoir lieu. Et donc, je remets les mains sur ces interviews donc, de Quincy, de plein d'artistes qui parlent de cette époque-là. Et je retombe sur ce récit, donc, des deux stars de l'époque, parce qu'on est au milieu des années 80. Ouais. Freddie est tout en haut, Michael est au summum. Seulement le problème, c'est qu'ils sont fantasques tous les deux, et donc ils rêvent de faire cet album en commun, parce que l'un est fan de l'autre, l'autre est fan du premier. Et en fait, bah, ça va pas du tout bien se passer. Les sessions studio sont à rallonge. Alors, il se trouve que...
Donc, ils ont quand même été en studio. Pour ça,
il y a trois chansons qui sont sorties, ouais, quand même. Ouais, c'est des démos, mais ouais, on peut se figurer...
On peut se projeter,
oui. Ouais, un peu. D'ailleurs, entre guillemets, je dis ça parce que c'est pas des produits finis et que c'était des adorates, c'était des esthètes, tu vois. C'est que c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer sur le papier. Et mais le vrai problème, c'était que surtout Michael Jackson avait un lama à l'époque, donc il n'avait pas ni un chat ni un chien, mais son animal domestique était un lama, et ça terrifiait Freddie Mercury, qui prenait énormément de cocaïne à l'époque, et était là, il appelait son manager et disait, je t'en supplie, sors-moi de là, je viens un lama, ce connard, et tout. Vraiment, c'était... elle est folle, l'histoire.
Ouais, incroyable. Alors, parce que tu parles de Freddie Mercury, récemment, il y a eu un biopic sur Freddie Mercury, ouais, Bohemian Rhapsody, mais il y a eu plus une succession de biopics. Toi qui aimes les biographies autorisées, j'imagine que ça t'intéresse au moins de loin. Je ne sais pas si tu as tous vu, je pense, celui sur Elton John, même Amy Winehouse, sur Bob Marley.
Il y en a vu.
Ouais, Whitney Houston. Il y en a un sur Michael Jackson, on sait qu'il va arriver l'année prochaine. Est-ce que ce sont des films qui te... Je parle pas, alors, il y en a toujours eu, hein. Je pense à Bird sur Charlie Parker ou Ray sur, avec Jamie Foxx sur, oui, Ray Charles. Mais là, depuis quelques années, on a un peu une tendance de biopic avec des résultats qui me semblent inégaux. Comment tu prends ça? Est-ce que tu vas tous les voir? T'es toujours intéressé par tous ces films?
Ouais, franchement, je vais tous les voir pour plein de raisons. Mais je t'avoue que... Alors, le Bohemian Rhapsody, c'est un bon exemple. C'est un template. Tu sais, les Marvel, par exemple, avaient un template, c'était Blade, dans les années 90. Ce film-là, ils ont dit, ah, il y a une vanne à 2 minutes, l'action à 20 minutes, il y a machin, on va prendre le template et on va en faire un truc.
Ouais.
Bohemian Rhapsody, je pense, a utilisé le template de Walk the Line, qui a été le film qui a été fait sur Johnny Cash.
Avec Joaquin Phoenix.
C'est-à-dire commencer par un moment hyper grave, pour après revenir un petit peu vers l'enfance, et puis après aller directement dans le dur des problèmes des artistes. Et moi, je trouve que c'est cool parce que ça pousse les gens à découvrir des artistes. Si tu racontes la vraie vie des artistes, qu'est-ce qu'elle est chiante. Moi, je te dis, j'ai fait plein de tournées, les journées dans le tourbus, il n'y a rien à raconter. Enfin, nos vies sont quand même en fait assez normales.
Ouais.
Donc, les fantasmer comme ça, je trouve que c'est chouette d'un côté. Et de l'autre, effectivement, et c'est pour ça que j'ai écrit Shuffle, je veux les défantasmer en disant non, en fait... Il y a aussi beaucoup de travail, il y a aussi, tu vois, comme Tina Turner qui a eu une vie épouvantable, il y a aussi tout ça, tu vois, et il n'y a pas toujours que la gloire et machin, il y a tout un autre pendant. Donc en fait, j'aime bien les deux, j'aime bien que l'un amène à l'autre. Tu sais, c'est un peu comme le concept du sport. Je suis très content que LeBron James existe. Heureusement qu'il n'y a pas que des LeBron James sur le terrain.
Sinon, ça ne marcherait pas dans une équipe.
Ça ne marcherait pas.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est là où tu commences à t'intéresser à d'autres. Et après, tu commences à dire « Ah, j'adore la personnalité d'un tel. » Et tu rentres dans la passion, la vraie. Mais pour moi, ça, c'est plus l'étendard, tu vois, ces films-là.
Quand tu parles de défantasmer les artistes, est-ce que... Il peut aussi y avoir, parce que là tu dis oui aussi, raconter le travail qu'il y a, le temps que ça prend. Et parfois, quand on fantasme aussi les artistes, on leur pardonne beaucoup de choses. Tu sais, même et toi qui t'intéresses à la pop au sens large, mais notamment aussi au rock, beaucoup c'est la vie de rockstar qu'on a pu fantasmer, parfois en laissant de côté même des zones d'ombre chez certains artistes. Est-ce que tu as aussi cette envie-là de dire, bon, on peut pas non plus tout pardonner aux artistes aussi géniaux soient-ils?
Alors tu vois, c'est génial que tu me dises ça, parce que le livre, en gros, je mets 1 an et demi à l'écrire. Et à la fin, je me dis, pour moi, je veux que la pièce, elle est complète si elle est de face. Et les deux faces, c'est raconter le dark side de tout ce que j'ai raconté dans le livre. Et donc, il y a un chapitre spécial à la fin où je ne fais pas le casier judiciaire de chacun, mais je raconte toutes les sales histoires dans lesquelles ont trempé tous ces artistes-là, c'est-à-dire pédocriminalité, etc., tu vois. Ça m'a pris quasiment un an pour un chapitre très court, parce qu'en fait, il y a beaucoup de rétention d'informations, il y a beaucoup plus d'investigations à faire. J'ai fait un travail de journaliste, en réalité, pour ce truc-là. Et pour moi, c'est hyper important qu'il y ait les deux. Après, tu te fais ton idée. Moi, par exemple, je suis fan des Beatles. John Lennon, je le trouve extraordinaire. N'oublions jamais qu'il a frappé jusqu'au sang toutes les femmes avec qui il a été. À partir du moment où tu as toutes les informations, c'est à toi d'en faire ce que tu en veux. Mais en tout cas, je me dois, moi, dans ce livre,
de
ne pas omettre ça.
Wax est avec nous jusqu'à 23h. Alors Wax, on l'a dit, tu es un musicien, tu fais de la musique depuis longtemps, et tu as une émission qui s'appelle Fanzine sur YouTube, que j'aime énormément, je te l'ai déjà dit, c'est sincère, et je suis content parce que tu me l'avais montré avant de sortir le premier épisode.
Exactement.
Et je trouvais que c'était génial parce que déjà on voit des gens faire de la musique, ce qui n'est plus si commun que ça, on voit beaucoup de gens parler de musique, je suis bien placé pour en parler, mais je veux dire, on voit assez... C'est devenu assez rare de voir des gens faire de la musique. Et donc, Fanzine, c'est une rencontre avec des artistes très différents et parfois aussi des reprises. Et notamment, par exemple, une reprise qui avait très bien marché, c'est celle de Petite banlieusarde de Diams, Paratic.
Petite banlieusarde, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la MAF, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes, fasciné par Man et Ginger et Sam. Moi c'est mon monde et je ne suis pas un cas à part. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. J'aurais peut-être né quelque part en fait. Merde, je me perds, métissé, je reste le cul entre deux chaises. Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste? Qu'ai-je fait pour qu'on me teste? Qu'ai-je fait pour qu'on me blesse seul? Je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir, ex. Petite.
Donc ça c'était en plein Covid, Attic qui sort Angela, plus validé, la vidéo avait cartonné.
Mais oui, parce que c'était avant, on l'a enregistré avant.
Ouais, exactement, je me souviens très bien de ce moment-là. Comment toi aussi tu arrive à faire sortir les artistes de leur zone de confort? Alors là, c'est moins le cas, puisque Attic, on sait qu'il est fan de rap, il reprend Diams, mais j'avais envie qu'on écoute ça. Mais parfois, il y a des reprises très étonnantes, oui, qu'on n'attend absolument pas. Comment tu parviens? Est-ce que ça vient peut-être aussi d'eux? Comment ça se met en place?
Écoute, franchement, en général, moi, je tiens quand même à leur rendre hommage, parce que les artistes, à chaque fois, arrivent, c'est eux avec des idées qui, moi, me semblent assez folles. Okay. Et moi, j'essaye d'être à la hauteur de cette folie. Mais... des fois, ça m'arrive de susurrer des idées, de dire, franchement, toi qui ferais ça, ça serait dingue. Mais franchement, la plupart du temps, c'est quand même les artistes. J'ai l'impression que j'ai réussi avec Seacall, avec qui je fais cette émission.
Absolument.
On a réussi à créer une safe place dans laquelle les artistes se disent, je ferai jamais ça ailleurs. Tu sais quoi, je vais le faire chez lui. Mmh. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire aussi dans Étincelle sur l'album. L'IMSA, tu vois, par exemple, Dolnay, que j'adore, c'est mon rappeur actuel préféré. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mon rappeur de tous les temps préféré, mon rappeur actuel préféré sur un album de folk.
Tu coches tes envies de gamin, en fait. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça qui est beau.
Et l'IMSA, on avait déjà travaillé ensemble. On avait parlé de notre amour pour Christophe. Et quand il me dit qu'il veut reprendre Paradis perdu, Je me suis dit, et on se l'est dit, s'il y a bien un endroit où il pourra le faire, ça sera là. Et je suis tellement heureux d'avoir pu créer ça, parce que du coup, ça crée une liberté que les artistes me disent qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs, ouais. En tout cas là-dessus. Voilà, sur les reprises.
Parce que toi, t'es sur YouTube depuis longtemps, je pense au comité des reprises, etc., qui a été un énorme succès, Fanzine qui marche aussi. Est-ce que t'as l'impression d'avoir compris quelque chose sur YouTube assez tôt, en termes de régularité, de format? Parce que, encore une fois, la musique sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça. Toi, tu es une des figures du YouTube musical en France depuis quelques années. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une stratégie, d'avoir compris YouTube un peu plus tôt peut-être que d'autres?
Eh bien, écoute, non, parce que vraiment, j'ai été poussé. Moi, je pense avoir été le moins malin de la bande. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'avais une émission qui s'appelait le Nawak sur Dailymotion.
Absolument.
À l'époque.
Et première émission.
Ma première émission. Ouais. Mon premier invité, c'est Aurel San, qui est inconnu à l'époque. Et donc, on buzz ensemble à l'époque. Bon, après, chacun fait sa route, tu vois.
Ouais. Et buzzer sur Dailymotion à l'époque, c'est combien de vues?
On avait fait 100 000 vues.
Oui, mais ce qui semble ridicule aujourd'hui.
Ce qui semble ridicule, mais à l'époque, c'était gigantesque, tu vois.
À l'époque, c'était immense.
Ouais, ouais, exactement. Et puis, après, donc, PV Nova, qui était un créateur de contenu sur Internet, nous contacte, dit « Je suis fan de l'émission, j'aimerais bien participer, enfin, venir voir comment vous faites ». Après, lui crée sa chaîne YouTube. C'est lui qui me dit « J'aimerais bien faire une émission un peu comme tu faisais à l'époque ». Moi, j'avais une touche chez Canal+, donc on fait le comité des reprises ensemble. Et c'est lui qui crée ma chaîne YouTube et qui dit « Il faut que tu fasses des choses sur YouTube. Les gens, je pense que ça leur plairait ce que tu as à proposer ».
Oui, donc tu n'avais pas spécialement de vision. Tu voulais juste faire de la musique,
c'est
toi,
ça.
En fait.
Ouais. Et donc, du coup, c'est là où on se rencontre avec Pomme, on fait des vidéos ensemble. Et en fait, après, ça marche. Et je me rappelle que même à l'époque, je faisais des hommages à Just Blaze, enfin des trucs dans ma tête que j'aimais bien. Je pense qu'on avait parlé à l'époque.
Exactement.
Un producteur de rap qui rentre en contact avec moi. Du coup, on a fait.
Mais c'est vrai, ça, j'avais oublié. C'était exceptionnel,
oui.
Ça.
Oui, mais tu vois, enfin, des trucs comme ça. Ce qui a poussé derrière des groupes comme Linkin Park, qui aimait bien mon travail, à me dire et si on faisait une vidéo ensemble, c'est le monde à l'envers quand même, parce que c'est moi le fan de Linkin Park et c'est ouais. Eux qui se retrouvent à me demander, enfin, et en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie, je dois t'avouer. Moi, après, le truc le plus stratégique entre guillemets que j'ai fait, c'est que je voulais absolument créer une émission de reprise, et surtout, en fait, je voulais parler à des musiciens de musique et seulement de musique en faisant, tu vois, en les comprenant mieux. Et je me rappelle, une fois, on avait une discussion, toi et moi, où tu m'avais dit, j'ai mieux compris Chilla après avoir vu ton épisode de fanzine, parce que eh ben, le fait qu'elle reprenne Amy Winehouse, etc., j'ai mieux compris qui était Chilla, parce qu'elle n'aurait jamais repris Amy Winehouse à un Planet Rap, par exemple, ou ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'aller chercher ça chez les artistes et de pouvoir leur permettre de le faire.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau d'une artiste qu'on a déjà cité, toi et moi, dans l'émission, c'est Pomme, avec qui tu as, on l'a dit, travaillé. Pour lequel tu as produit des morceaux, et on va s'écouter le morceau des excuses.
C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance auprès. Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu. Thank you.
Pomme, donc, morceau s'appelle Des Excuses, Pomme, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On va continuer de parler de Pomme et de Wax tout de suite dans À la Régulière.
France Inter, Mehdi Maizi, À la Régulière.
Oui, car je voulais maintenant qu'on parle un petit peu aussi de ta casquette de producteur. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais tu produis pour plusieurs personnes. Pomme, on l'a dit, L.E.J. à l'époque, Ben l'Oncle Sol, ou Giorgio, un rappeur pour qui tu as produit plusieurs morceaux, comme par exemple l'excellent À quoi sert de courir.
On sent bien entre chien et loup, à quoi bon courir, à quoi bon courir. Si c'est pour courir à sa perte, à quoi bon courir, à quoi bon courir. Si c'est pour courir à sa perte, à quoi bon courir.
À quoi bon courir et non pas à quoi ça sert de courir. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, ça aussi, d'être un peu plus dans l'ombre et de travailler vraiment un peu au service du projet de quelqu'un d'autre? On n'est pas dans la reprise, on n'est pas dans un de tes albums à toi, on est vraiment dans s'insérer dans la direction artistique d'un autre artiste. Tu prends du plaisir aussi là-dedans?
Ah ouais, c'est ce que je préfère faire, en fait. Vraiment, j'adore ça. J'adore parce que c'est un peu l'âge de ma part, mais du coup, je peux prendre plus de risques.
Ouais.
C'est pas mes chansons.
Des choses que tu ne vas pas t'autoriser toi en solo,
ou que j'ai pas le talent de faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est comme si, tu vois, j'avais une palette de, allez, on va dire trois couleurs d'aquarelle, tu vois, pour ma feuille. Quand je suis avec un artiste qui a toute une palette de couleurs, c'est extraordinaire, je peux vraiment m'amuser encore plus. Et donc quand je suis en studio avec Pomme, quand je suis avec Giorgio, récemment j'ai été avec Zamdan, c'est il y a tellement de talent que du coup ça, tu vois, ça fleurit en moi, et c'est un vrai échange, c'est un vrai partage. J'adore produire des disques et j'adore qu'un disque ait une couleur, tu vois.
Mmh.
Moi je crois vachement aux disques.
Crois encore aux albums?
Je crois vachement aux albums. Je pense qu'il y a vraiment des artistes qui... Il y a toute typologie d'artistes, tu vois. Il y a des artistes qui ont toujours préféré faire des singles et qui ont toujours fait des albums un peu décevants parce que ce qu'ils préféraient, c'était faire des morceaux. Et d'autres qui faisaient des vrais albums. Feu Chatterton est un groupe à albums, par exemple. Ils font des vrais albums. Mmh. C'est pas des gens qui sortent des singles, juste les
dernier album s'appelle Labyrinthe. Très bon album, d'ailleurs.
Très, très bon album. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait le choix aujourd'hui et que ça soit plus une obligation, en tout cas, de sortir un album. On fait ce qu'on veut.
Qui est ta référence ultime en tant que producteur? Je vais me permettre de suggérer un nom. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais moi, j'ai l'impression que pour quelqu'un comme toi qui est très éclectique, qui touche à des genres très différents, qui sait faire des choses très différentes, tout en ayant ta base à toi, j'ai l'impression, et tu n'es pas le seul, hein, si c'est le cas en tout cas, que Rick Rubin est peut-être le producteur ultime pour toi.
C'est le producteur qui m'a fait... C'est l'un des producteurs qui m'a fait vouloir faire de la réalisation un jour dans ma vie.
Donc Rick Rubin qui est, bon, tu en parleras peut-être sûrement mieux que moi, mais qui est un des fondateurs de Def Jam, qui a produit pour aussi bien les Red Hot que LL Cool J, pour Kanye West, sur Yeezus, vraiment, qui est quelqu'un qui a une carrière qui n'a pas de sens, en fait.
Non, en fait, qui n'a pas de sens et qui en même temps avait quasiment 30 ans d'avance sur ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il sort, c'est quand même le cofondateur de Def Jam.
Exactement.
Et sur Def Jam, aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui, il y avait quand même d'un côté Run DMC et des groupes comme Slayer sur le même label. La photo de famille quand ils sont tous ensemble là avec les Beastie Boys, c'est fou quand même, de se dire ça. Et au moment
ça
où
a existé,
sont,
ça
a existé.
Ouais.
Et ça, tu vois, c'est mon rêve d'un jour de pouvoir toucher à quelque chose qui peut ressembler à ça. Tu vois.
Ouais.
Et il quitte tout. Quand il est au sommet, pour aller à Los Angeles, produire les Red Hot d'un côté, mais surtout aller draguer Johnny Cash qui n'a pas eu de succès depuis 25 ans. C'est énorme, 25 ans dans une carrière.
Ouais, dans la musique, c'est fini.
Normalement, t'es enterré.
Ouais.
Et il va le chercher, il lui dit, on va faire des albums de reprise en guitare chant. Mais cette vision, tu vois, elle me rend fou. Et pareil, AC/DC, c'était des gros ringards. Il leur fait faire la BO de Last Action Hero en produisant le titre Big Gun. Et du coup, il y a une hype. Ils re-signent en maison de disques dans une grosse maison. Et ils ressortent Ballbreaker et derrière ça remarche. Enfin, il y a un moment où il marche sur l'eau, Rick Rubin. Et cette période me fascine. Après, on en a beaucoup fait sur Rick Rubin. Il a aussi dit beaucoup de bêtises,
absolument,
comme tout le monde. Mais
il vieillit pas très bien. Mais bon, on sort de la musique.
De la musique. On est encore dans autre chose. Mais effectivement, c'est vrai qu'en termes de carrière, qui ne rêverait pas d'avoir un orteil de la carrière de Rick Rubin?
Est-ce que c'est ton producteur favori ?
En tout cas, s'il y avait un producteur où je serais très honoré de pouvoir faire, si ce n'est pas un album, mais une chanson, j'aimerais bien que ce soit avec lui. Juste pour pouvoir dire, me dire à moi, au petit Benjamin, qui a 13 ans et qui lit toutes les jaquettes de tous les albums sur lesquels il a produit, un jour tu feras un truc avec lui. Ouais, c'est un peu un de mes rêves, tu vois, un peu caché.
Si on grossit, mais vraiment de manière très un peu vulgaire le trait, on va dire que toi tu viens plutôt du rock à la base, mais
oui.
Aujourd'hui tu travailles avec gens qui n'ont parfois rien à voir avec le rock, notamment aussi avec des gens du rap. On a souvent eu ces discussions-là, mais est-ce que tu as le sentiment que tu as retrouvé, notamment ces dernières années dans le rap, une forme d'énergie peut-être que tu as connue toi quand tu avais 20 piges et que tu écoutais vraiment peut-être majoritairement du rock? Est-ce que tu as le sentiment que les rappeurs actuels ont repris, non pas le flambeau musicalement, mais peut-être aussi en termes d'énergie?
Ouais, alors l'énergie, c'est sûr. D'ailleurs, on a fait un album avec Sico qui s'appelle Lithium,
oui.
Dans lequel tu m'avais invité aussi,
ouais.
Et on avait déjà parlé ensemble, où j'avais essayé de reprendre l'énergie d'artistes que je trouvais phénoménal, qu'il repose en paix, Levresval, qui est sur l'album, Giorgio, évidemment, avec qui je fais toujours plein de trucs, plein d'artistes aussi qui étaient sur...
Il y avait le Juice aussi qui était présent,
il y avait Chilla, et en fait, en réalité, moi j'ai toujours écouté autant de rap que de rock, même à l'époque où... j'avais des groupes de rock, et à l'époque, je trouvais que les rockers qui essayaient de faire du rap, ça ne marchait pas. Je pense à Limp Bizkit, par exemple. Alors, je trouvais que quand ils faisaient du rock, c'était cool, mais quand ils essayaient de s'acoquiner avec des rappeurs, malheureusement, on n'avait pas le niveau, tu vois. Il y a notamment un espèce de cypher où il y a DMX, Redman, Method Man. Comment tu veux, au milieu de ces mecs-là, vivre?
Oui.
Et il y a ce pauvre Fred Durst au milieu de tout ça, qui malheureusement fait un peu grise mine.
Oui.
Et j'ai trouvé que les rappeurs récemment qui ont essayé de faire du rock avaient compris quelque chose que les rockers n'avaient pas compris à l'époque. Donc effectivement, je trouve que cette énergie, elle est mieux maîtrisée. Après, c'est peut-être global aussi. Mais effectivement, je trouve que le rap a une énergie rock'n'roll. Voilà.
On est avec Wax et on continue de parler de musique et de basket jusque 23h. Oui, de basket, car tu es aussi un grand fan de basket. Et on a déjà parlé ensemble, mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Tout le monde sait que tu as joué la Marseillaise à Bercy,
oui.
Devant Michael Jordan.
Ouais.
Qu'est-ce que ça représente, ça, pour un fan de basket qui a, je crois, qui t'est vraiment pris le basket dans les années 90? Qu'est-ce que ça signifiait pour toi?
Alors, c'était heureusement qu'on ne m'a pas dit qu'il y avait Michael Jordan, okay, qui serait là. On m'a d'ailleurs rien indiqué. On m'a demandé si je voulais faire la Marseillaise pour le premier match de NBA en France. Ce qui est déjà, pour moi, c'était fou parce que je suis issu d'une famille d'immigrés. Donc la Marseillaise, ça a une signification un peu particulière parce que c'est aussi une intégration. Il y a quelque chose d'important quand on est issu de l'immigration par rapport à cet hymne. Et le basket, dans toute ma famille, tout le monde a fait du basket. Mon oncle a été champion de France. Mon père a fait beaucoup de basket près de Beşiktaş à Istanbul. Ma mère a été championne d'Indre du basket. Enfin voilà, tu vois, on a cette énergie, ouais, très très basket dans la famille.
T'as grandi là-dedans?
J'ai grandi là-dedans. Et donc quand on me propose ça, c'est vrai que c'est fou. Michael Jordan est pour moi le plus grand joueur de l'histoire, peut-être même l'un des plus grands sportifs de tous les temps, ça se discute en tout cas. Et effectivement, juste avant que je commence à entreprendre de jouer la chanson au milieu du stade, alors que t'es en direct à la télé, etc., il y a déjà une forte pression. Nicolas Batum, qui était aux Hornets à l'époque, qui est un joueur français de l'équipe de France, vient me susurrer dans l'oreille et il me dit « Regarde en haut, il y a le boss qui te regarde ». Et je comprends pas de quoi il me parle et je regarde et je vois Jordan dans sa loge. Et vraiment qui regarde, mais l'air allez, fais vite, quoi. Et là, je prends ma guitare ce moment, du coup, c'est un milestone dans ma vie, effectivement.
Ouais, ouais.
J'ai tout mélangé. La musique, le basket, ma passion, faire la Marseillaise aussi, c'était fort pour moi.
Ouais.
Voilà.
Cet amour du basket, on a compris d'où il vient. Je crois que tu as une passion pour une équipe, c'est les Pistons de Détroit.
Ouais, exactement.
Alors, quand on est gamin dans les années 90, moi je parle de loin, j'y connais pas grand-chose en basket, mais je me dis qu'on... globalement, on va être fan des Bulls, de Chicago, des Lakers, à la limite de Houston, ou là de Juwan, je sais pas, c'est les souvenirs que j'ai des années 90, mais pas des Pistons.
Ouais, complètement.
Pourquoi ?
Alors, parce que j'ai de la famille à Détroit qui, quand j'étais tout petit, dans les années fin 80, m'ont envoyé énormément, à moi et à mon petit frère, du merchandising. C'était une manière de... Entre cousins, c'est une cousinade, ils s'envoyaient des trucs. Le français envoyait aux États-Unis, les États-Unis envoyaient à la France, etc. Et donc, je recevais ça. Bon, pour moi, Détroit Pistons, c'était une marque de fringues.
Oui, pour c'était même pas un club.
C'était même pas un club. Et un jour, il m'envoie la VHS quand même, des Bad Boys de Détroit, donc qui sont l'équipe des Pistons de la fin des années 80, qui ont quand même...
À l'époque, c'est une grosse équipe.
C'est une énorme équipe qui a battu tout le monde. C'est les Jordan Stoppers, c'est grâce à eux que Jordan ne gagne pas ses premiers titres. Ils arrivent à battre Magic Johnson avec les Lakers, ils battent Larry Bird avec les Celtics, et donc c'est une équipe en fait mythique. Et donc je me dis, c'est non seulement mon sport préféré, mais c'est mon équipe préférée. Vraiment. Les Pistons, j'aime vraiment ça. Et après, tu sais, il y a le clou final, c'est que je vais à Détroit, je vois ma famille. À l'époque, ils draftent Grant Hill, c'était censé être le futur Jordan. Et là, je m'achète le maillot actuel, le machin de l'époque. Et là, c'est définitivement les Pistons à vie. Et puis, c'est resté aujourd'hui. Tu sais, souvent, on se dit, c'est quoi ta série préférée de tous les temps ? Bah, ma série préférée de tous les temps, c'est les Pistons. Voilà.
Tu la suis encore chaque semaine
Je regarde tous les matchs. En tout cas, quand je ne peux pas regarder entièrement, je regarde des condensés. Mais je regarde tous les matchs. J'ai vécu des années très dures. Et cette année, on est premier de l'Est.
Ouais.
Donc,
ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé ?
Ah bah, écoute, c'est depuis 2004.
Ouais. Donc, ça fait un petit moment.
Ça fait 21 ans. Et j'attends ça.
Tu as dit que Jordan était le plus grand basketteur de tous les temps. Et je n'irai pas te contredire là-dessus. Mais je crois qu'un de tes modèles, c'est Dennis Rodman. Ouais. Qui est, pour le coup, quelqu'un qui était peut-être moins talentueux intrinsèquement. Mais qui a travaillé. Et c'est ça aussi que tu... C'est presque un mantra, ça, chez toi. C'est le côté de travail plus que le talent, même si, évidemment, qu'il faut du talent. Mais ça ne suffit pas.
Oui, je suis d'accord. Et je rajouterais même qu'il y a un troisième facteur, c'est la météo, c'est avoir de la chance, tu vois. Je pense que Rodman a eu la chance aussi d'être très bien entouré, notamment par Jordan, mais avant par Isaiah Thomas. Il a joué aussi avec Tim Duncan. Enfin, pas Tim Duncan, David Robinson, excusez-moi. Oui. Et aux Spurs. Et en réalité, moi, je me sens beaucoup plus être un Dennis Rodman dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'accompagne au maximum, le mieux possible, les gens, les Michael Jordan.
Les Michael Jordan ou les Pippen.
Voilà, c'est ça. Et bah, Pomme, c'était mon Michael Jordan. J'essayais d'être son Rodman derrière, en train de faire un peu de basse, un peu de guitare, un peu de ceci, un peu de ça. Un peu tout ce qui est dans l'ombre pour qu'elle puisse encore plus briller. C'est ça à chaque fois l'objectif de la production ou de la composition. Et voilà. Alors, c'est toujours des images un peu spéciales, mais voilà, je me sens plus d'un Rodman que de quelqu'un d'autre.
Aussi une carrière cinématographique, Dennis Rodman.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens de ce film Simon Says ?
Simon Says, évidemment.
Avec Paix à son âme, Philippe Nikolic, leader des To Be Free, qui était un de mes héros d'enfance, j'ai pas peur de le dire. Et Emma Jeuberg, qui jouait, tu sais, l'actrice, la policière dans Les Taxis, qui était l'amour de Frédéric Diefenthal.
Exactement.
Voilà.
Ouais, je l'ai vu ce film, comme j'ai vu Double Team d'ailleurs.
Double Team avec Jean-Claude Van Damme.
Et Mickey Rourke.
Et Mickey Rourke en méchant, je crois.
En méchant, ça, exactement.
Ouais. Mais le Simon Says.
Le Simon Says,
est pas si mal.
Pas si mal. Et pourquoi Simon Says ? C'est quand même, c'est un gros lien à Demolition Man, où à chaque fois il dit Simon a dit.
Ah oui, c'est l'équivalent du Jacques a dit chez eux, c'est
exactement.
Ça.
Et vu qu'il s'était fait la coupe blonde quand il était aux Spurs, et tout le monde l'appelait Demolition Man parce qu'il ressemblait à Wesley Snipes.
Personnage de Wesley Snipes.
Et ben ça a été une boucle bouclée avec ce film.
Et ben ça, j'avais pas cette info.
Voilà.
Tu vois, tu devrais écrire un autre livre.
Ouais, je vais écrire un livre.
Les anecdotes sur les basketteurs qui font des mauvais films.
Il y a une histoire sur Dennis Rodman et je devrais en faire plus.
En faire plus, très bien. Wax, on continue. On est avec toi jusqu'à 23h et on va s'écouter. Écoutez un morceau de Freak Slug, le morceau s'appelle Miss June et j'adore ce titre.
We'll be right back.
C'était Fluxlog avec le morceau Miss June.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Wax, tu es mon invité aujourd'hui, merci d'être là.
Ah, merci à toi encore.
Et c'est l'heure des recommandations. Et tu m'as envoyé plusieurs recommandations, notamment le dernier album commun, non pas de Michael Jackson et de Freddie Mercury, mais de Limsa Dolné et de Isha.
9-3-6, j'aime bien ces trois chiffres. ASB, j'aime bien ces trois lettres. Aéroport d'Orly, Air Wassi, jette la coca dans les toilettes. Le projet, ça fait longtemps que tu l'attends. Ça m'appelle Ali, qui est moi-même un sale arabe, un sale congolais, comme Abdel Malik et Walid. Moi aussi, je fais partie de ce continent. Ils m'ont fait
Abdel Malik et Walid, donc extrait de Bitume Caviar Volume 2. T'as déjà dit un peu avant ton amour pour Limsa Dolné. Pourquoi cet album?
Parce que, écoute, bah, déjà, il est sorti le même jour que
Étincelle 2, c'est vrai, le 5 décembre.
J'ai beaucoup plus écouté cet album que le mien. Bah, après, je pense que c'est normal, mais tu vois, on parle de projet d'album depuis tout à l'heure. Et bah, ça, c'est un vrai album, tu vois, c'est un vrai album. Il y a tellement de bons producteurs dessus, il y a Lucci, mais il y en a beaucoup d'autres.
Jean Jass, D.I. Ouais, très bien produit, le projet.
Très bien produit. Je trouve que c'est encore mieux que le premier, ce qui est rare. Le premier que j'adorais déjà et oui, et les thématiques, la manière dont ils ont de s'envoyer la balle l'un et l'autre, de se répondre, je trouve que voilà, c'est son nom est bien dit, c'est vraiment du caviar quoi.
Mais je crois qu'en plus toi, avant que, parce que Limsa Dolné, ça fait quelques années qu'il est, que ça se passe bien pour lui, il a sorti les logiques, le projet avec Isha évidemment, et qu'il existe vraiment dans la français. Mais je crois que toi, tu travaillais avec lui avant que tout ça se passe.
Ouais, exactement.
C'est très tôt en fait.
Les logiques, on les produit dans mon studio.
Ouais.
Et effectivement, c'est un artiste, depuis le début, c'est Giorgio qui me le présente, et c'est marrant parce que Giorgio, il a été hyper important pour moi à ce niveau-là, parce qu'il me présente Isha, qui faisait nos premières parties en Belgique. De Giorgio, et Isha à l'époque n'était vraiment pas du tout le Isha d'aujourd'hui,
oui, oui.
Il était beaucoup moins connu, enfin c'était même niche, on peut
ouais,
le dire,
absolument.
Et il me présente Limsa, mais qui est juste un ami, je ne comprends que très tard que Limsa rappe, et un jour, je vois une vidéo d'un freestyle, je fais, mais qu'est-ce qu'il fout là Limsa? Et c'est juste
Salim,
c'était un grunt où en plus il y avait Nek, il y avait Alpha, il y avait tout le monde, et il y a lui au milieu, et il fait un couplet, alors je l'appelle tout de suite, je lui dis, mais attends Salim, mais c'est quoi ce délire? Il fait, bah mec, je rappe en fait, tu savais pas, mais je suis rappeur, et parce qu'il est d'une humilité folle, et donc direct je lui dis, faut que tu viennes au studio, faut qu'on fasse des trucs, et en fait, je suis touché par ces deux gammes, touchent énormément, je les trouve tellement puissants, enfin, c'est le mot, c'est puissant.
Autre album que tu as recommandé, l'album Blinds de Wednesday. C'est le morceau Toonies.
Ouais, Toonies.
Là, je suis moins sur mon terrain de prédilection,
bien
je vais
sûr.
Pas te mentir, mais je suis content que tu me fasses découvrir ça. De qui est-ce qu'on écoute là?
Alors, on écoute un groupe qui est originaire de la Caroline du Nord, avec cette chanteuse extraordinaire qui mène ce groupe. En fait, en réalité, c'est plus son groupe à elle, et eux, c'est plus des musiciens accompagnants. On peut entendre en fond, là, qu'il y a du lap steel guitare, c'est de la guitare qu'on joue sur les genoux. Elle a mélangé le grunge des années 90 avec le côté un peu countryside de la Caroline du Nord. Et en plus, c'est une femme, elle est ultra powerful dans ses textes, elle est extrêmement militante. Et vraiment, je suis tombé dessus par pur hasard, parce que j'adore encore lire, moi, la presse. Voilà.
Ouais.
Et je crois que c'était sur Pitchfork, je traînais sur Pitchfork, qui avait dit, tiens, cette semaine, il y a nos trois rocos. Et dans les trois rocos, il y avait ça. J'ai tout de suite enregistré les trois, et je me suis commandé le vinyle vraiment... un quart d'heure après avoir écouté cette chanson.
Peux encore être, il peut y avoir la prescription encore
oui.
Dans la presse,
ah, je trouve.
C'est intéressant. Ouais,
ah ouais, par exemple, et je veux pas... tu vois, je te l'ai dit déjà plein de fois, mais pour moi, toi, tu es très prescripteur. Il y a plein d'artistes que tu m'as... Tu vois, par exemple, Triple Crème, je l'écoute quasiment tous les jours.
Le projet de Hawkis et Many Days.
Et de Many Days. Le titre Magnum, c'est toi qui me le fais découvrir, tu vois.
Qu'on joue dans cette émission, ouais. Ça me fait plaisir.
En plus, Hawkis est un Arménien, donc...
oui, c'est pas parce qu'il rappe bien.
Non, non, c'est pas du tout pour ça. Non, non, mais j'adore Hawkis. Du coup, c'est toi qui me l'a fait découvrir. Et du coup, ouais, voilà. C'est... Moi, je crois vachement encore qu'on peut faire découvrir des choses. C'est aussi pour ça que je fais toutes ces émissions. J'en suis sûr qu'on peut faire ça.
Wax, c'est l'heure de la question qui tue.
Ouf.
Et avec cette question, peut-être que tu vas nous faire découvrir toi aussi quelque chose ou pas. Je ne sais pas, ça va dépendre de ta question. Tu vas voir, c'est une question qui est très simple, mais qui est un peu chiante en vrai.
Ok.
Quel est, pour toi, le plus grand album de rock de tous les temps?
Eh ben, je vais te répondre Blue Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers.
Ah, il faut me dire pourquoi.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. C'est parce que on est à un moment qui est, pour moi...
T'as répondu très rapidement. C'est-à-dire que pour toi, c'est... Il n'y a pas trop de débat pour toi.
Parce que c'est personnel.
Évidemment.
Si on était dans le, pas le personnel...
Tu vas me dire un album que tout le monde va citer. Ouais,
ouais, je pourrais te citer plein de trucs. Pet Sounds, il y a plein d'albums très importants. Blue Sugar Sex Magik, il est très important pour plein de choses. Déjà, c'est une dream team. C'est Gus Van Sant qui fait les images. C'est
réalisateur de plusieurs films à succès, notamment Will Hunting, par exemple.
Exactement. C'est Brendan O'Brien qui fait le mix, qui a produit Pearl Jam, qui a produit énormément de groupes, Incubus, etc. C'est Andy Wallace qui fait le mastering, c'est le producteur Andy Wallace qui va faire Nevermind de Nirvana. C'est Rick Rubin qui chapeaute le tout. Et au milieu de tout ça, t'as les Red Hot Chili Peppers qui, pour moi, ont... mettre un grand coup dans l'industrie du disque à ce moment-là, parce qu'on sort des années 80 où c'est la production ultra produite, instrument par instrument, c'est très empirique, il y a des énormes productions à cette époque-là, la pop explose, on a parlé tout à l'heure de Michael Jackson ou de Madonna, c'est... Et eux, ils arrivent, ils disent non, c'est fini les strass, les paillettes, on va être en t-shirt, voire même des fois nu avec une chaussette sur le visi,
ouais.
On va la plupart du temps être en sweatshirt. Et c'est ok, on va porter des t-shirts Public Enemy, NWA,
ouais.
C'est l'époque Terminator 2, et ils se disent, allez, viens, on s'en fout de tout ça, on enregistre live, le traitement de la batterie, la production, tout est malin, tout est bien senti, ils mélangent le rap, la folk, le rock, tout ce que j'aime, et ils finissent par une reprise d'Air Red Hot, c'est la dernière piste, qui est une reprise de Robert Johnson, qui est le dieu du blues. Il est parfait cet album. Et c'est mon étincelle, c'est l'album qui m'a donné envie vraiment d'aller tout découvrir dans la musique, quoi.
Écoute, ça me semble une réponse parfaite. En plus, t'as parlé de Terminator 2, ce qui me permet de moi de faire ma promo, parce que hier on a fait une émission sur James Cameron, dans laquelle on a évidemment parlé de James Cameron, puisqu'il sort Avatar 3 cette semaine. On est très loin des Red Hot là, avec Avatar 3.
Je peux te poser la question qui tue ?
Oui, dis-moi vite, rapidement.
Est-ce que True Lies, tu le mets dans ton top 5 au moins des films de Cameron ou pas ?
Jamais de la vie. Merci beaucoup Wax d'avoir été là aujourd'hui. Merci vraiment, sincèrement.
Merci Mehdi.
On rappelle que Étincelle 2 est disponible. Le livre Shuffle aussi, dans lequel tu racontes énormément d'histoires sur des chansons, des artistes légendaires, est disponible. C'est un beau cadeau de Noël ça aussi.
C'est un très beau cadeau de Noël,
ouais,
je pense. Complètement. À mettre dans la haute.
Voilà, merci Wax vraiment et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission. Préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli, la programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Guillaume Roux et Sibyl Clamin. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, une émission consacrée à Final Fantasy.